Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites Valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence tout de suite avec Max et Mélanie.
Salut la foule, bon aujourd'hui c'est du sérieux. Je vais vous demander un vrai engagement, chers auditeurs. Soyons fous, battons-nous pour la langue française évolutive, soyons inclusifs et modernes. Je revendique donc mes interviews comme étant exclusives et qu'on écrit donc comme ça, interview, et qu'on prononce comme ça. Voilà, allez, c'est parti pour de nouvelles interviews exclusives dans ce monde de folle.
J'ai pas trop envie. Et en fait... Nous, avec Max, on s'occupe de faire des micro-trottoirs sur des questionnements de la vie. Et du coup, on fait les marchés, on va à la rencontre des gens pour leur poser nos petites questions. Et là, on en a une. Et la question du jour, c'est « Peut-on encore trouver l'amour sans application ?» Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Quand on a vu votre stand avec les petites culottes et les soutifs, tout ça, on s'est dit c'est là qu'il faut qu'on s'arrête. Quoi.
Ah, ça attire du chaland. Voilà.
si, c'est une forme d'application, je veux dire.
Hein, la petite culotte et tout. Ben,
on met quelque chose autour de l'amour, tu vois, pour le rendre plus subtil, de la pudeur, des petites culottes.
Effectivement. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça ?
Eh ben, moi, j'ai rencontré mon dernier chéri, mon chéri actuel, sur le marché.
Ah, génial.
Voilà.
Bonjour, monsieur.
C'est un placier, en plus.
En plus, donc il me place super
voilà,
bien.
Voilà, il me place super c'est... bien. Donc oui, ça existe.
Ok, sans appli, ça existe.
Sans appli, c'est possible.
Ok, super.
Sur le marché de l'amour.
Sur voilà. Le marché de l'amour.
Là, c'est bizarre quand même. C'est la réalité là, où on est sur Internet, je comprends plus rien.
Non,
là.
Non, c'est la réalité, tu vois.
Ok, okay bah c'est original en tout cas, ouais.
C'est original, c'est chouette.
Voilà.
Votre prénom ?
Marilus.
Ben merci beaucoup Marilus. Passez une bonne journée.
Merci.
Merci, bonne journée.
Bon mais là c'est on n'est pas là pour ça, pas que ça à foutre. Mais... On est là pour travailler avec nous.
Oui.
Tu vois ? Donc on fait les interviews, je t'enregistre depuis tout à l'heure, 54 secondes pour rien. Déjà tu crois que
je suis à bord.
Bah ouais, non, ça va pas du tout là. La dernière fois t'étais bon, mais là tu.
Je me suis entendu, quoi. C'était bien.
Ouais,
Mais j'aime pas ma voix.
C'est une des meilleures, c'est une des meilleures.
Ah bah c'est pas moi, et Julie Amélie m'a fait un film, elle dit c'est toi. Non, c'est pas moi.
Personne n'aime sa voix.
Non, je me reconnais pas.
Mélanie, elle aime pas quand on l'entend rigoler.
Oui, c'est vrai, moi quand on m'entend rire, je trouve que j'ai un rire assez... C'est quoi ce rire, quoi
Moi je dis des conneries tout le temps, je le regrette, et tout,
on peut pas enlever. On trouve toujours la voix des autres super bien.
Je peux pas faire autrement.
J'arrive pas.
Bon, Flo, on a un autre sujet.
Ah, c'est bien, ça change.
Ouais, ça change. Et le nouveau sujet, c'est est-ce qu'on peut trouver l'amour sans application ?
Ah bah oui. Ah, c'est sûr. Moi déjà, j'ai pas d'application, j'ai trouvé l'amour, je l'ai gardé, tout va bien.
Ouais, ouais, bah voilà. Venant d'un poissonnier, ça coule de source, tu vois, c'est normal.
Après, avec ma femme, on a eu un enfant. Donc pareil, tu retrouves l'amour sans application. Ouais. Les applications pour faire des enfants, ça marche pas. Et après, je sais pas, est-ce que ça marche les applications ? Faut demander aux gens qui s'appliquent.
Mais c'est pour ça qu'on est dans la rue.
Moi, je suis quelqu'un de très c'est bouillon, ça. Je m'applique pas.
Ouais.
Et puis bon, le monde, il a vécu plus longtemps sans application qu'avec application, ça a toujours très bien marché. Il y a toujours eu des histoires d'amour, des histoires d'arrangement sans amour, il y a eu plein de genres d'histoires. Il y en a pour tous les goûts.
C'est ça.
L'application, c'est pas mon truc. J'ai beaucoup de copains qui utilisaient ça quand on avait 25, 30 ans pour pécho vite fait, quoi.
Ouais. Voilà.
Mais toi, t'as pas envie de pécho vite fait ?
Plus à mon âge.
Pour un poissonnier, j'ai envie de dire, ça colle pas de source. Enfin, je me répète un peu là, mais...
Mais plus à mon âge. Mais quand j'avais 30 ans, je faisais sans application. Voilà.
A-t-on besoin d'application pour trouver des truites ? Pardon. Non, parce que tu vends des truites.
Voilà, donc moi ma réponse est assurément non.
Ok.
Mais pour les timides, peut-être ça les aide. Les gens modernes qui vivent beaucoup sur leur téléphone très connecté, au moins ils ne se sentent pas dépaysés. Après, est-ce qu'ils perdent quelque chose ?
C'est là la grande question.
Ils perdent quelque chose, mais ils trouvent autre chose aussi. Donc est-ce que c'est mieux ou moins bien, j'en sais rien. On le dira...
Sans jugement.
On le dira a posteriori.
C'est ça.
Ouais, on verra les conséquences plus tard. Ouais.
Merci,
moi, c'est pas mon truc.
Voilà. Ouais, super. Merci Flo. En tout
merci
cas.
À vous. J'espère que vous trouverez des bons candidats interviewés sans application.
Bah, moi, j'en profite pour essayer de draguer un peu, tu vois. Je cherche l'amour, mais ça marche pas. Hein. Non, pas du tout. Tu veux pas
prends une application.
Un rendez-vous avec moi ça, non
pourquoi pas.
Allez, ouais. On se prend rendez-vous
mais,
tous les deux.
Mais pour rigoler, quoi.
Ouais.
On rigole, quoi.
Ouais, bah.
T'as pécho vite fait, c'est plus de mon âge.
Ouais, non, t'inquiète pas, je suis gentil, tu verras, parce que je suis adorable. Allez, bah, bisous,
ciao,
mon grand.
Bisous,
ouais,
amusez-vous bien.
Ciao.
Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Que les roses fanent, que nos âmes sont dans les limbes profondes. Et la nuit, quand tout te songe, je te regarde danser. Le long de ta poitrine, perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divague, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divaguant sur ma peau, une fleur. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Et la nuit, quand tout te songe, je te regarde danser.
C'était Amour Plastique de Vidéo Club. Et maintenant, c'est Jean-Michel.
Salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais.
Ouais, j'ai rien entendu.
Ouais,
aujourd'hui, nous abordons une nouvelle phase dans la rubrique du cinquantenaire du groupe Ange. En effet, il ne nous reste que 3 émissions avant les vacances pour vous parler des 13 albums studio et pour terminer la première saison de Faites valser vos idées. Accélérons le rythme sans attendre. Parlons de Fou, un album de 1984 pour résumer, une perle d'onirisme, de folie, un album atypique et merde à la guerre. Parlons d'Egna de 1986 pour résumer, un bijou de poésie, d'amour, le cul qui jazz quoi, et merde à la guerre. Parlons de Tout Feu Tout Flamme, C'est pour de rire, de 1987. Pour résumer, la vie c'est pour de rire, elle ne fait que passer, aussi soyons heureux, et merde à la guerre. Parlons de Sève qui peut, de 1989. Pour résumer, la vie vue par un Quercus Robur de 1709, un chêne, une révolution, aimer ou haïr, et merde à la guerre.
Et merde à la guerre.
Voilà, c'était Crevé d'amour, Coït Terminal, extrait de l'album Fou de 1984, une des chansons les plus érotiques qui me fut donné d'entendre. En tout cas, mieux vaut Crevé d'amour que d'une balle de Kalachnikov ou de M16. Maintenant, c'est à toi, Mélanie.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Où en sont vos rencontres amoureuses? Comment avez-vous trouvé l'âme sœur? Êtes-vous plutôt rencontre fortuite, imprévue, faite au coin d'une rue? Ou préférez-vous choisir votre idéal via une interface tranquillement installée dans votre canapé? C'est la question que l'on continue à vous poser avec Max, et on vous laisse la parole.
C'est pour Radio Escapade.
Je connais pas du tout.
D'accord, c'est une radio locale.
Ok.
Et nous, avec Max, là, dans cette petite émission que nous avons, on fait des micro-trottoirs et on pose des questions.
D'accord.
Aux personnes.
Enfin, moi, ça m'a été imposé. Je suis un esclave à Radio Escapade. Il me traite comme une merde.
N'écoutez pas.
C'est pour ça que vous avez toujours du collier dans le sac.
Voilà, c'est ça. C'est parce que je...
Pour les pleurs.
Ouais. Et la question du jour, c'est peut-on encore trouver l'amour sans application de nos jours?
Oui, alors je pense que oui.
Ouais.
Après, moi, c'est vrai que mon chéri, je l'ai rencontré sur une appli.
Ah.
Donc voilà, c'était un peu par hasard, mais on s'est rencontré quand même sur une appli. Mais après, oui, j'en connais encore qui se rencontrent comme ça et qui tombent amoureux comme ça.
D'accord. Et vous, donc, c'est par appli que vous
avez rencontré? Oui, c'est sur une application, une appli de rencontre.
Super.
Au début, c'était juste pour passer le temps, puis finalement, je suis tombée dessus et ça fait un an qu'on est ensemble.
D'accord.
Voilà.
Ah, un an, c'est pas mal. Là, il y a une nouvelle relation.
Ouais, là, il y a. Ouais, dire, ouais, un an, c'est pas mal.
Ah, mais
ouais.
On habite ensemble. En...
Parce qu'on a tendance à être critique à parler de consommation de l'amour et tout ça. Avec
sur les applications.
Mais après, moi, je prends l'exemple de ma grande sœur. Elle est pareille. Ça fait 7 ans qu'elle a rencontré son homme sur Internet.
Ouais.
Ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble et ils sont très heureux ensemble. Donc après, je pense qu'il y a de tout.
Il y a de tout.
Ouais.
Il y a et de la consommation et effectivement des personnes
qui rencontrent vraiment l'amour.
Ah, c'est cool. Voilà. Ben merci pour votre témoignage, votre prénom.
Flora.
Merci Flora.
Bonne journée. Bonne journée.
Merci.
Bonjour.
Ah merde, je croyais que ça avait commencé. Ça y est, ça commence maintenant en fait.
Alors,
j'ai foiré.
C'est Radio Escapade, la radio locale.
Oui.
Voilà.
Okay.
Et nous, dans notre émission avec Max, on fait des micro-trottoirs. On interroge les personnes que l'on croise sur des sujets. Et le sujet du moment, c'est la grande question qu'on se pose, c'est peut-on encore trouver l'amour sans application? D'après.
Ah ouais, bah ouais, non, mais je savais que ça allait vous choquer, c'est un sujet de merde, moi j'aime pas du tout.
Sans application,
ouais. Sans application.
Sans application téléphone, sans application téléphone.
Ah ok, moi je croyais appliquer les choses dans la vie, je n'aime pas du tout pour ça.
En fait, on est tous les trois, on n'a pas de téléphone.
Ouais, on n'a pas de téléphone portable.
Ouais, donc on ne peut pas trop parler de téléphone.
Non, mais l'application, on dit,
Bah nous, on ne sent pas trop concernés par ça parce qu'on est en couple depuis 10 ans. Donc
mais même moi, je suis entre les deux.
Quoi, t'es en couple avec eux, entre les deux? Ah ouais, vous m'avez fait peur. Enfin, en même temps,
on va pas. Non, non, tous les deux. Mais bah après, l'amour, ça dépend si on entend juste l'amour couple ou après, il y a l'amour juste entre relationnel, entre les gens. Quoi. On peut s'aimer au-delà du couple. Et moi, personnellement, les applications... Et le portable, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, entre autres. Mais c'est la raison principale pour laquelle j'ai arrêté le portable. C'est que, en fait, ça, au contraire, ça mettait une distance. En fait, on croit qu'on est proche des gens, mais c'est tout l'inverse. Mmh. En fait, même moi, ça, j'ai grandi avec. Donc, le fait d'être, de préparer son SMS pendant 10 minutes alors qu'il y a 3 lignes, alors que j'ai pas la personne en face de moi, ça me coupe complètement d'elle, en fait. Donc, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Moi.
D'accord. Vous avez des témoignages autour de vous de personnes qui auraient rencontré quelqu'un sur des applications?
Non,
pas du tout.
Alors là, pas du tout.
Enfin, je crois pas, non.
Bah, quand on a des instruments pareils, c'est des musiciens. Hein. Il y en a un qui a un gros saxo, l'autre une grosse guitare, évidemment. Quand on a des instruments pareils, on n'a pas besoin d'application. Hein, les gars?
C'est bon, on peut rencontrer des gens, ouais, c'est facile.
Ouais. L'amour, c'est plus facile tout de suite.
La musique, c'est un partage aussi, donc ça permet de rencontrer des gens. Ouais.
Bah, c'est ce que je voulais dire.
Ouais, voilà.
Voilà.
Ok, bah, merci beaucoup. Merci à vous.
Avec plaisir.
À la prochaine, merci.
Et alors, l'émission, elle passe quand? Si on peut écouter.
J'enregistre encore là. Hein.
Ah oui.
Ah
bon?
Ah ouais. Ah, c'est pas en direct.
On sait jamais s'il y a des conneries. Ouais, je... Non, c'est pas en direct.
C'est,
en direct.
C'est pour l'émission. Je me suis dit, je me sens si en face
vous plaît
de
pas,
Guillaume
vous me dites.
Déjà, c'est pas non, pas du tout. C'est pour l'émission du mois d'avril.
Ok.
Voilà, celle de mars, on l'a enregistrée hier. Donc, celle-là sera pour le mois d'avril.
C'est cool. Moi, des fois, je passe. J'écoute. Escapade, ça passe et j'aime bien les musiques.
Ben là, c'est Faites valser vos idées.
Ok.
C'est l'émission Faites valser vos idées.
Ok.
Et voilà, il y a...
C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire sur le sujet, effectivement.
Bah, non, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas, on cherche pas des personnes qui ont beaucoup de choses à dire, juste ce qu'ils ont à dire, eux, et d'être eux-mêmes dans ce qu'ils ont à dire, c'est tout.
Ouais, on voilà. rencontre, on s'amuse, on discute, et voilà.
Jamais utiliser les applications.
Pareil, voilà.
Voilà.
Enfin, je trouvais ça... Enfin, c'est pas humain, en fait. Pour moi, les rencontres, ça se fait dans la vie réelle, quoi.
C'est déshumanisant, je suis super exactement. D'accord avec toi sur ce coup-là. On va conclure là-dessus en fait, par contre.
Ouais,
du coup.
Ouais.
Ouais, allez. Nickel, j'aime bien. Allez.
Nickel.
Une petite voilà, note négative pour finir. Super.
C'était It's Too Late de White Bell. À toi Jean-Pierre.
Merci Mélanie. Alors en 1775, Monsieur de Lamotte met en vente un château et il va trouver un acquéreur. Un certain François Desrues se présente et manifeste son intérêt. L'homme s'apprête à toucher un héritage, ce qui lui permettra de payer les 130 000 livres demandés. Un acte de vente est signé. Et le paiement est prévu en juillet 1776. Mais voilà, en décembre, l'argent n'est toujours pas là et M. de Lamotte n'a aucune nouvelle de son acheteur. Alors au début de l'année suivante, il va envoyer son épouse à Paris pour rencontrer cet acheteur qui n'a jamais payé. Mais le temps passe et l'homme n'a désormais plus de nouvelles de son épouse et de son fils. Et en ce début de l'année 1777, il est très inquiet. Que leur est-il arrivé ? Car le fils, âgé de 16 ans, a aussi disparu de son établissement scolaire parisien. Alors, de Lamotte envoie des lettres à Desrues, et ce dernier répond que sa femme et son fils sont retenus à Versailles pour une autre affaire. L'argument ne convainc pas, et l'homme, sans nouvelles rassurantes, décide de partir à Paris à la recherche de François Desrues pour tirer tout cela au clair. mais un ami lui conseille plutôt de porter plainte en supposition d'acte de vente et suppression de personne. Le policier réunira de nombreux renseignements et des indices qui convergeront vers François Desrues, qui sera arrêté le 12 mars. Desrues va alors proclamer son innocence. Il n'y est pour rien, il n'a rien à se reprocher. Et surtout pour la police, il y a un problème. Il n'y a pas de cadavre, alors comment prouver sa culpabilité? Mais comme vous le savez, le hasard fait parfois bien les choses. Le mari éploré a pris une location dans la rue de la Mortellerie, une rue sur laquelle je reviendrai à la fin de la chronique. Et c'est dans cette même rue que le propriétaire d'une cave se plaint à une voisine que son locataire introuvable ne lui a jamais payé son loyer. Le mari éploré, puisqu'il loge dans cette rue, entend des rumeurs sur cette cave et il fait le rapprochement. Il prévient aussitôt le magistrat qui ordonne une perquisition de la cave en question. Un trou assez important est creusé dans le sol, à l'intérieur une grande valise, on l'ouvre et là on découvre un cadavre de femme. L'autopsie révélera que Madame Delamotte a été empoisonnée. Alors on interroge Desrues qui, après avoir tout nié, reconnaîtra que cette pauvre dame est décédée d'une mort naturelle. Alors il a eu peur, ne voulant pas être accusé, ne sachant pas trop quoi faire. Il va mettre le corps de la femme dans la valise et dans la cave qui était destinée à recevoir des tonneaux de vin. Mais Desrues, après ses premiers aveux, est pressé de questions par les enquêteurs, et notamment au sujet du garçon. Qu'est-il arrivé au jeune homme? Et c'est là que François Desrues joue de malchance, car le jeune homme est mort lui aussi de mort naturelle lors d'un repas à Versailles. Il a eu un malaise. Alors Desrues, bien sûr, a eu peur, et il a fait enterrer le garçon de 16 ans sous un faux nom. La police va évidemment exhumer le corps et l'autopsie qui sera réalisée révélera que lui aussi présente des traces d'empoisonnement. Alors, François Desrues apparaît ici comme le coupable idéal, avec deux meurtres à son actif par empoisonnement, sans doute même trois meurtres si M. Delamotte s'était présenté à son domicile. Il aurait ainsi pu récupérer le château sans débourser un sou. Mais vient le temps du procès. Un petit homme à l'air dévot et souriant se présente à la barre. Il est présenté par ses voisins comme quelqu'un de pieux et qui force l'admiration. Mais les témoignages vont finir par casser ce portrait trop idéal. En réalité, sa fausse piété ne sert qu'à dissimuler les parties fines auxquelles il se livre. Il dissimule aussi sa cruauté qui l'anime depuis son plus jeune âge. Le procès et la reconstitution qui suivra permettra de mieux comprendre le fil des événements. Lorsque Madame Delamotte se présente chez Desrues, ce dernier lui offre généreusement l'hospitalité chez lui. Mais très vite, elle va se plaindre régulièrement de maux de tête et de nausées. Elle sera de plus en plus malade. À la fin du mois de janvier, Desrues va faire en sorte d'éloigner sa servante et sa femme du domicile. Il est temps pour lui de soigner son invité une bonne fois pour toutes, qui décédera dans la nuit après avoir bu un breuvage préparé par son hôte. Il mettra son corps dans une valise qu'il enverra dans la cave de la rue de la Mortellerie. Le 10 février 1777, il va chercher à sa pension le fils, car sa mère le demande. Le garçon, sans se méfier, part avec Desrues à Versailles pour voir sa mère. Sur la route, il aura droit à une bonne tasse de chocolat. Et le jeune homme fera un malaise. C'est alors que Desrues s'arrête dans une auberge et loue une chambre. Son neveu, prétend-il, souffre d'une maladie vénérienne et dans la nuit du 15 février, il mourra. C'est alors que François Desrues organisera l'inhumation de son neveu sous le nom de Louis-Antoine Beaupré. Il fera ça bien, Desrues. La tristesse sera là. C'est un homme très affecté, voire brisé. C'est un très bon comédien, à tel point que l'entourage présent à l'inhumation n'y verra que du feu. Toujours est-il que François Desrues sera condamné à être roué et brûlé vif, c'est-à-dire à être attaché à une roue, frappé, torturé et finalement brûlé. Peu après sa condamnation, Desrues jouera les martyrs tellement bien qu'il aura ses partisans. La foule s'empressera de s'approprier ses ossements comme des reliques et qui feront l'objet ultérieurement d'un commerce. Mais il est temps de revenir à la rue de la Mortellerie. Paris et la France connaîtront une épidémie de choléra venue du nord de l'Europe en 1832. Une tragédie qui à Paris fera 19 000 morts en 6 mois. Mais pour la seule rue de la Mortellerie, il y aura plus de 300 victimes. Du chlore sera jeté dans les rues et les fiacres les sillonnent pour ramasser les cadavres et les mourants. Les rues seront désertées et les rares qui s'aventureront à l'extérieur se protégeront comme ils le peuvent. Cette tragédie entraîne le changement du nom de la rue en 1835 sur demande de la population. Quelques années plus tard, en 1848, une révolte d'ouvriers éclate. Des rixes ont lieu dans la ville et les affrontements féroces causeront la mort de 4000 personnes. L'ancienne rue de la Mortellerie, à elle seule, sera l'un des théâtres les plus terribles de ces violences avec de nombreux cadavres jonchant le sol. Après tous ces événements, cette rue se forgera la réputation d'être la plus maudite de la capitale. L'ancienne rue de la Mortellerie s'appelle désormais rue de l'Hôtel de Ville.
Bonjour, je cherche des rues.
Mais enfin, il y en a partout des rues, à droite, à gauche, au milieu.
Non, je cherche un monsieur des rues qui habite rue Mort...
Mort qui tue ?
Mortadelle ?
Mortbac.
Moribond ?
Mortifère.
Morpion ?
Oh, oh, tant pis. C'était juste pour lui porter des valises.
Dès que je l'ai vu, Jésus, les ennuis qui m'attendaient. Dès que je l'ai vu, Jésus, les ennuis qui m'attendaient, elle m'a pas déçu. Elle, il fallait que je l'aie. Même si pour ça le ciel ou l'enfer m'avalait, elle est belle comme une princesse de sang, de celles qui rendent un homme faible et languissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre. Cette histoire, je le sens, ne finira pas sans effusion de sang.
Si j'avais vu l'anneau d'or à son doigt, j'aurais fui, peut-être et encore.
Où veut en venir ce démon quand elle me dit supprimons tout obstacle. De sang, de celles qui rendent un homme plus qu'obéissant. J'ai la fièvre dans le sang, cette fille m'échauffe les sangs comme un adolescent. Je déraille bon sang, j'ai la fièvre dans le sang, cette histoire je le sens, ne finira pas sans effusion de sang.
C'était La fièvre dans le sang par Alain Chamfort et tout de suite Jean-Michel.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade, 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges et au Vigan. Sur Internet, dans le monde entier et dans tout l'univers connu, www.radioescapades.org. Si je suis tombé du ciel, c'est que je viens du soleil. Et je vais grandir, grandir.
Si je suis tombé du ciel, c'est que je viens du soleil. Et je vais grandir.
Grandir jusqu'à plus pouvoir, grandir sans jamais savoir, aimer ou haïr.
Quelle couleur, quelle senteur, quel sentiment, laissez le jour venir. Ce jour-là, faudra choisir, aimer, haïr.
Puis je suis devenu chêne, entre l'amour et la haine, pour t'appartenir. Savourer l'instant magique d'un élixir galactique, un autre délire.
Tout a commencé un jour de 1709. J'étais une graine. La graine d'un chêne qu'un vent sympathique et mystérieux avait posé là, en terre de France, au cœur de la forêt du Rosemont. La forêt du Rosemont, c'est tout près de Belfort, une petite ville nichée dans une trouée à l'est du pays. Donc j'étais une graine, un gland comme ils disent, et rien ne laissait supposer que 80 années plus tard, j'allais faire l'objet d'un bouleversement humain gigantesque.
C'est que je viens du soleil et je vais grandir, grandir. Si je suis tombé du ciel, c'est que je viens du soleil et je vais grandir. Grandir jusqu'à plus pouvoir, grandir sans jamais savoir aimer ou haïr. Entre l'amour et la haine, pour t'appartenir. Savourer l'instant magique d'un élixir galactique, un autre délire.
c'est encore moi. Au fait, je m'appelle Quercus Robur, pédonculé du Val du Rosemont, mais appelez-moi le chêne. C'est plus simple. Attention, pas n'importe quel chêne. Je suis une philophagacée, un chêne d'une espèce infaillible. Dans la galerie des connaissances, je donne la sève à ceux qui savent. Hélas, ceux qui savent ne sont pas toujours ceux qui sauvent. Quand il manque le cœur, le pouvoir est tragique.
Donc vous pouvez, si vous le désirez, retrouver pratiquement tous les albums de Ange en concert ou en studio, sur YouTube ou en écoute gratuite. Tapez Ange album complet. Ah oui, on vient d'écouter Aimer Haïr de l'album Sauf qui peut de 1989. Si vous cherchez encore plus d'informations sur le groupe, les concerts à venir, l'actualité du groupe, tapez Un pied dans la marge sur Internet. C'est la sauce qui s'occupe de la promo du groupe. Vous aurez tous les renseignements possibles et inimaginables. C'est à toi maintenant, Lydia.
Bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Une femme raconte qu'elle a emmené son fils chez le vétérinaire parce qu'il s'identifie comme étant un chat. Et s'il se définit comme tel, c'est que c'est ce qu'il est vraiment. Comme c'est une mère ouverte et encourageante, elle emmène donc son fils chez le véto quand il est malade. Le vétérinaire lui fait remarquer respectueusement que son fils ayant une anatomie humaine, il n'était ni compétent ni autorisé à soigner son fils chat. Elle s'insurge donc contre cette discrimination. Elle rassure tout le monde, elle ne va pas porter plainte contre le véto pour ne pas qu'il risque de perdre sa licence, mais qu'il faudrait tout de même aborder le sujet politiquement envers cette flagrante discrimination de genre. Après avoir bien ri, je me suis dirigée vers les commentaires pour voir si ça avait fait marrer d'autres personnes. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de constater que nombre d'internautes avaient pris ce qui était une parodie des dérives du wokisme véritablement sérieusement. J'ai un peu raconté cette histoire dans mon entourage et en général, la réaction a été qu'on a cru que cela soit vraiment arrivé. Mais enfin, pourquoi ? Eh bien, sans doute, parce qu'il se passe parfois des choses qui finissent par dépasser notre entendement. Et après tout, cette femme n'a pas fait cette parodie sortie de nulle part. Prenons ce qu'il s'est passé au Royaume-Uni dans un collège du Sussex. Une élève ayant refusé d'accepter de considérer une de ses camarades de classe comme étant une chatte, s'est faite vertement remettre à sa place par sa professeure. L'élève a eu la bonne idée d'enregistrer la conversation qu'elle a eue avec sa prof. Dans l'enregistrement diffusé par le quotidien anglais Daily Mail, on peut entendre l'enseignante critiquer vertement son élève. « Comment oses-tu ? Tu viens de contrarier quelqu'un en disant des choses comme « Tu devrais être dans un asile ». Ce à quoi la jeune fille répond « Je n'ai pas dit ça ». J'ai juste dit que si elle veut s'identifier à une vache ou quelque chose comme ça, alors elle est vraiment malade. La jeune fille s'est défendue en expliquant qu'elle s'était sentie obligée de demander à sa camarade de classe comment pouvait-elle s'identifier à un chat alors qu'elle est une fille. « Tu remets en cause son identité, » répond le professeur, qui demande à son élève « D'où vient cette idée qu'il n'y a que deux genres ?» « J'ai juste dit ce que je pensais, » répond la jeune fille. Excédée, la professeure coupe court à l'argumentation de son élève en lui expliquant qu'il existe de nombreux genres, y compris transgenre et agenre. La professeure conclut en expliquant à son élève que son opinion est vraiment méprisable et très triste. Cette dernière a indiqué à la jeune fille qu'elle comptait signaler son comportement inapproprié au directeur de l'établissement et qu'elle avait besoin d'une conversation éducative sur l'égalité, la diversité et l'inclusion. Le problème que là, moi, je vois, c'est que la jeune fille ne parlait pas d'identité de genre sexuelle, mais de quelqu'un qui s'identifie comme étant un chat. Et du coup, je ne vois pas trop le rapport avec l'égalité, la diversité et l'inclusion. Et de mon point de vue, c'est la professeure qui confond un peu tout et qui est un peu trop radicale sur la question des genres. Partons maintenant aux États-Unis. Une rumeur réfutée à plusieurs reprises selon laquelle des écoles avaient installé des litières pour les élèves s'identifiant comme des chats a été reprise par au moins 20 candidats conservateurs aux élections américaines de mi-mandat pour tenter d'améliorer leur position électorale. Et oui, car l'électorat conservateur aux États-Unis n'est pas trop fan de la communauté LGBTQA+, ni des toilettes mixtes ou inclusives. Et si vous vous posez la question « c'est quoi des toilettes inclusives ?», c'est des toilettes où l'on dessine le matériel, urinoir, cuvette, compartiment, lave-main, etc., à la place du pictogramme « femme » ou « homme ». Comme ça, tu vas où tu te sens le plus toi-même. Ce mythe des litières dans les écoles a fini par arriver au Canada, où nombre d'écoles, universités, s'évertuent régulièrement à publier des démentis. Qu'une vingtaine de candidats politiques continuent à propager cette rumeur me choque réellement. Alors que des pictogrammes inclusifs sur la porte des toilettes, bah en vrai, je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Je me demande aussi si on prend le temps de se poser et de réfléchir et d'imaginer par exemple un ou une ado allant au collège prétendant être un chat, allant faire ses besoins dans une litière. Quel ado prendrait le risque de se ridiculiser à ce point ? Alors oui, le mouvement woke, comme tout mouvement visant à bousculer le monde, a ses excès. Mais ce n'est pas un mouvement récent. Regardez, en 1965, Martin Luther King appelait les jeunes Américains à rester éveillés et à être des citoyens engagés. L'expression « wokisme » était alors plutôt destinée à dénoncer les injustices sociales envers les Afro-Américains. Aujourd'hui, le mouvement s'est élargi. Il dénonce l'ensemble des injustices sociales telles que celles concernant les femmes, la communauté LGBT, les minorités ethniques, les handicapés. Les personnes woke estiment que les sociétés à travers le monde demeurent inéquitables et parfois destructrices pour certaines minorités. Elles reconnaissent que l'on peut être traité différemment selon son milieu social, sa couleur de peau, sa religion, son handicap, son sexe ou son genre. Ainsi, s'attaquer aux inégalités structurelles rendra le monde plus sûr et meilleur. Voilà une idée qu'elle est bonne, rendre le monde meilleur. Alors oui, il y a des dérives. Prenons Hollywood. Les scénaristes se voient imposer des quotas ethniques, des handicapés, des personnes LGBTQ, etc., ce qui restreint leur créativité. S'obliger à insérer des personnages auxquels un auteur n'avait pas pensé, ça craint, non ? Bon, de toute façon, ils accumulent flop sur flop. Il y a une expression qui fleurit maintenant aux États-Unis, c'est « go woke, go broke ». Traduction « devenez éveillé, faites faillite ». Quand on réécrit les livres de Roald Dahl pour l'expurger de tout ce qui pourrait heurter, la sanction ne se fait pas attendre. Le public veut transmettre à ses enfants les livres qui les ont fait rêver. Ils n'achètent donc que l'ancienne version. Tout mouvement sociétal finit par avoir ses pour-radicaux et ses anti-radicaux. Il faut y voir un certain avantage. Que l'on mise sur la désinformation avec des rumeurs ridicules ou que l'on impose ses vues avec de la censure, les pour et les contre extrémistes finissent par se discréditer tout seuls. Mais le mouvement pour un monde plus équitable, lui, continue d'avancer avec les plus modérés. Pour finir, je vous rappelle qu'à l'exception des chiens d'assistance, les animaux domestiques sont interdits dans les établissements scolaires.
I'm still here in this bed that I crawled in. I hope that I'm someone else in the morning. So take this one, wash it down and you'll be fine. Then walk around in a floating chalk outline. But so it goes, let it be. In the gallows, balanced on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I'll bury myself with a great big smile. Oh my mind, oh my mind, we trace ourselves. erase ourselves in these chalk outlines.
Such relief and the sip of serotonin. Don't cry, cause there's a pill for everything. Take this one, wash it down and you'll be fine.
So it goes, let it be. In the gallows, I balance on my toes so I can breathe. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I bury myself with a great big smile. Oh mama, oh mama, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh mama, oh mama, erase ourselves. Such a perfect day, take it just in case, take it just in case. I'm scared of being okay. Such a perfect day, it's a beautiful shame, it's a beautiful shame. I'm scared of being okay, cause all things change. But little by little, bit by bit, I push it back down with a new habit. If not for long, just for a while, I bury myself with a great big smile. Oh mama, oh mama, we trace ourselves in these chalk outlines. Oh mama, oh mama, we erase ourselves in these chalk outlines.
Alors c'était Chalk Outlines, Rain featuring Chinchilla. Et maintenant, Jean-Pierre nous pose une petite devinette.
Eh oui, alors je voudrais savoir si vous savez d'où vient la différence de couleur concernant les œufs d'oisillons. Je vais y arriver, les œufs d'oiseaux. Alors, il y a parfois des œufs qui sont clairs, d'autres qui sont foncés. Est-ce que vous savez d'où ça vient?
Certains pigmentés aussi.
C'est en fonction de ce qu'ils mangent?
Non.
C'est en fonction de ce que sera leur plumage?
Non plus.
Comment ils sont cuits?
C'est horrible, horrible, Jean-Michel, horrible.
Bah, la façon dont ils sont couvés, puisque du coup, Jean-Michel, il mettait la cuisson, mais est-ce que c'est une question de température qu'il y a sous la femelle?
Il y a une question de température.
Ok, on avance.
Ouais.
Si ça avait été des autres poules, j'aurais dit, par exemple, aux États-Unis, ils sont souvent blancs, mais c'est parce qu'ils les lavent à l'eau de Javel et tout ça.
Bon, là, c'est pas le cas, mais... Bon.
C'est une question de calcium qu'il y a dedans, ou réagit avec la chaleur.
Ça a vraiment un rapport avec la température.
Okay.
Alors...
Selon les climats, par exemple.
Le climat.
Ouais, le climat. Temps qu'il fait.
Ouais,
S'il
pleut,
ça.
Ils sont plus foncés. S'il fait soleil, ils sont plus clairs.
S'il fait chaud, ils sont plus clairs. S'il fait moins chaud, ils sont plus foncés.
C'est de l'histoire de mélanine pour,
les oiseaux conservés, les oiseaux peintres.
C'est peut-être la bonne réponse.
Les oiseaux peintres.
C'est pour conserver la chaleur de l'œuf, pour que le petit oisillon puisse se développer comme il faut.
Ok.
Voilà. Donc ils sont plus clairs quand il fait chaud, et quand il fait froid, ils sont plus foncés. Dans les pays où il fait plus froid, ils sont plus foncés pour conserver la chaleur.
Et d'accord. Ceux qui sont tachetés.
Alors là,
ils vivent donc, dans un climat modéré.
Et peut-être.
Donc les fameuses poules qui font des œufs très foncés, marron foncé, elles viennent du coup, c'est peut-être des races.
Ah non, cherche pas, ah, c'est dégueulasse. Okay.
Merci Jean-Pierre.
Voilà.
Merci Jean-Pierre. C'était d'actualité avec.
Avec Pâques.
C'était faites valser vos idées. Merci à Max. Mélanie, Lydia, Jean-Pierre, Et moi-même.
Et Antoine.
Big bisous Antoine, à toute la famille. Il y a réalisation Antoine. À bientôt.
À
merci.
Bientôt. À bientôt.